Israël a-t-il raison, oui ou non, de fermer les bureaux de la chaîne arabe Al Jazeera? Lise, est-ce qu'on a une idée de ce qu'en ont pensé nos auditeurs?
Oui, on avait une très forte majorité de oui. On va écouter notre invité et je vous donnerai les résultats après.
Pas de souci, notre invité c'est Stéphane Amar, il est journaliste spécialiste du Moyen-Orient. Voici sa façon à lui de répondre à la question du jour que je vous rappelle. Israël a-t-il raison de fermer les bureaux de la chaîne Al Jazeera la chaîne d'information Al Jazeera en Israël?
Stéphane Amar, bonjour.
Bonjour Lise.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Stéphane, vous êtes journaliste et spécialiste du Moyen-Orient. Alors, il y a une loi qui vient de passer pour interdire aux chaînes comme Al Jazeera, qui menacent la sécurité du pays en Israël, d'être suspendues. Est-ce que vous croyez, Stéphane, que Israël a bien fait de fermer temporairement Al Jazeera et de faire passer cette loi?
En tout cas, ce qui est certain, c'est que Al Jazeera fait partie intégrante de la stratégie du Hamas et du Qatar, puisque c'est une chaîne qatarite, et que, à ce titre, elle compte pour Israël parmi les instruments de la guerre, de cette guerre qui se joue depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza. Donc, cette décision, je dirais, obéit à une logique qui est une logique militaire. Dès lors qu'Al Jazeera est un moyen d'influence extrêmement important à la fois pour le Hamas et pour le Qatar, un instrument qui joue contre les intérêts israéliens, il était donc assez logique qu'Israël prenne des mesures contre cette chaîne.
Israël dit que Al Jazeera était véritablement le porte-parole du Hamas et que la chaîne incitait au terrorisme en temps de guerre. Est-ce que internationalement, vous avez l'impression que c'est ce que pensent également les pays occidentaux, Stéphane Amar?
Alors, les pays occidentaux sont divisés sur cette question. On voit que les États-Unis ont exprimé des réserves sur cette loi votée en Israël. Maintenant, une observation objective d'Al Jazeera, qu'il m'arrive de voir lorsque je me rends dans des foyers palestiniens, eh bien, permet de constater qu'effectivement, ce n'est pas une chaîne d'information. C'est une chaîne qui a des bulletins d'information, qui sont des bulletins orientés, évidemment, puisqu'il n'y a pas véritablement d'information objective. Il y a un parti pris, et ça, on pourrait bien sûr le comprendre. Mais il y a quelque chose d'extrêmement important qu'il faut savoir quand on regarde Al Jazeera, c'est qu'il y a également énormément de clips de propagande qui, là, cette fois-ci, ne relèvent pas de l'information, mais qui sont des clips avec de la musique, avec des images au ralenti, avec des gros plans, qui effectivement incitent très clairement la haine d'Israël, à la violence contre Israël. Et je pense que c'est à ce titre que cette loi a été votée.
Alors, effectivement, on comprend bien que c'était surtout Al Jazeera qui était dans le collimateur du ministère des Communications israélien. Est-ce qu'il y a d'autres chaînes qui pourraient pâtir de cela?
Alors, c'est extrêmement compliqué. D'abord, Al Jazeera, c'est une chaîne énorme qui est extrêmement populaire, notamment dans la région, mais dans l'ensemble du monde arabe, qui a même des déclinaisons en français sur Internet avec le site AJ+, qui lui aussi relaye ouvertement le point de vue du Hamas. Maintenant, évidemment, il y a une multitude de médias libanais, de médias jordaniens, de médias syriens, égyptiens, qui, d'une certaine manière, reflète aussi le point de vue du Hamas, peut-être de manière moins flagrante, mais qui sont associés, bien sûr, à cette vision de l'information. Israël ne pourra pas tout contrôler. Et puis, il y a bien sûr Internet, à moins de fermer hermétiquement, comme le font certains pays, comme la Chine ou comme la Corée du Nord. Il est évident qu'on ne peut pas contrôler toute l'information, mais je crois qu'il y a une portée extrêmement symbolique à cette loi. C'est un signal qui est envoyé au Qatar, qui joue les intermédiaires dans cette négociation, mais qui tout de même est le principal partenaire diplomatique du Hamas pour dire que l'information qui est véhiculée sur cette chaîne, eh bien, n'est pas recevable du point de vue israélien.
Alors, c'est vrai, Stéphane Amar, que les responsables israéliens se plaignent depuis longtemps de la couverture d'Al Jazeera. Mais il s'était abstenu par le passé de prendre des mesures, notamment parce que le Qatar finançait des projets de construction palestiniens dans la bande de Gaza, et aussi parce que le Qatar servait d'intermédiaire pour l'argent de l'autorité palestinienne. Alors, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, Israël ait décidé de sauter le pas?
Alors là, vous touchez véritablement au cœur du problème. C'est ce qu'on appelle ici la conception, la conception. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison, pendant des années, Israël a joué la carte du Qatar, a considéré que le Qatar était un facteur qui canalisait d'une certaine manière le Hamas, alors qu'il le finançait abondamment. On le sait que Israël a autorisé le versement de sommes considérables chaque mois en liquide dans la bande de Gaza, au Hamas dans la bande de Gaza, et qu'il a effectivement permis au Qatar d'investir massivement dans la bande de Gaza, en estimant eh bien que ces investissements contribueraient d'une certaine manière à la normalisation des rapports entre le Hamas et Israël, que le Hamas allait miser sur le développement économique, que les dirigeants eux-mêmes s'embourgeoiseraient et qu'ils ne voudraient pas plus se lancer dans la guerre contre Israël. On a bien sûr vu le résultat le 7 octobre. Cette conception était complètement erronée. Ce vote contre Al Jazeera s'inscrit donc dans un changement radical de conception, un changement à 180 degrés. Le Qatar n'est plus vu désormais comme un facteur d'apaisement, mais comme le partenaire, encore une fois, du Hamas, partenaire qui finance le Hamas, mais qui aussi lui permet de se déployer idéologiquement par le biais essentiellement de cette chaîne Al Jazeera. Donc effectivement, pour Israël, c'est un changement complet de stratégie dans lequel s'inscrit cette loi contre la chaîne Al Jazeera.
Oui, le Qatar qui abrite aussi le bureau politique du Hamas et plusieurs hauts responsables dont Ismaël Haniyeh. En novembre dernier, Israël avait semblé épargner Al Jazeera, ordonnant au contraire la fermeture de Al-Mayadeen, chaîne libanaise pro-iranienne, pourtant moins connue. Alors, est-ce que Al-Mayadeen, c'est mieux ou c'est pire qu'Al Jazeera, Stéphane Hamar?
Non, c'est certainement équivalent. Je ne connais pas le contenu de cette chaîne libanaise, mais je peux l'imaginer assez facilement. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne s'attaque pas à Al Jazeera comme on s'attaque à une petite chaîne libanaise. C'est une chaîne d'audience internationale. C'est une chaîne, encore une fois, qui est la création du Qatar, qui fait même d'ailleurs partie intégrale de la stratégie de puissance du Qatar et que je dirais qu'il a contribué de manière fondamentale à cette montée en puissance du Qatar absolument phénoménale, puisque ce tout petit pays, certes très riche, mais enfin très peu peuplé, fait d'une certaine manière la pluie et le beau temps au Proche-Orient, en tout cas en ce qui concerne le Hamas, puisque effectivement, comme vous le disiez, il héberge à la fois le Hamas, mais surtout il l'a abondamment financé. Et il joue un rôle extrêmement trouble également par rapport à l'Iran. Donc, il est certain que s'attaquer à Al Jazeera, on voit bien qu'il y a même des soutiens aux États-Unis, c'est prendre une décision extrêmement lourde de conséquences. C'est d'une certaine manière, eh bien, faire une entorse aux règles démocratiques israéliennes qui voudraient que les médias puissent librement travailler et diffuser en Israël. Mais là, effectivement, il y a une décision, je dirais, radicale, aussi radicale que cette guerre qui est menée contre le Hamas dans la bande de Gaza depuis 7 octobre.
Bien sûr. Alors, les États-Unis se disent préoccupés, vous l'avez dit, Stéphane Hamar. Est-ce qu'il y a, selon vous, un vrai danger pour la liberté de la presse en Israël du côté politique israélien, ou est-ce que c'est juste une suspension de 45 jours qui doit être prise comme une menace face à une chaîne qui le mérite?
Alors, en tant que journaliste, je ne vois pas comme une atteinte à la liberté de la presse toute mesure contre Al Jazeera. Pour moi, encore une fois, je le répète, il ne s'agit pas d'un média, il s'agit véritablement d'un organe de propagande, et encore une fois, pas par rapport aux informations, mais par rapport aux clips qui sont diffusés sur cette chaîne qui ne correspondent à aucun standard de journalisme occidental ou même de journalisme à l'échelle mondiale. Donc non, il n'y a pas de ce point de vue-là de danger sur l'information, mais il faut quand même préciser, c'est important, que Israël tente de plus en plus de maîtriser l'information, et notamment en interdisant aux journalistes de se rendre dans la bande de Gaza. En empêchant quelque part les journalistes occidentaux et du monde entier de se rendre dans la bande de Gaza, Israël laisse le monopole de la couverture de ce qui se passe à Gaza à des médias comme Al Jazeera, ou en tout cas à des médias arabes qui étaient déjà représentés à l'intérieur, ou à des agences qui ont des représentants à l'intérieur, mais on sait bien que ces journalistes à l'intérieur de la bande de Gaza ne peuvent pas travailler librement parce que ils vivent sous la menace du Hamas qui, lui, ne laisse aucune liberté d'information dans la bande de Gaza. Donc je dirais que il y a déjà depuis plusieurs mois, même plusieurs années, une limitation du droit des journalistes en Israël dans les territoires palestiniens, mais il n'y a pas de menace globale sur la liberté de la presse dans le pays.
Ma dernière question, Stéphane Amar. Le Hamas, sur sa chaîne Telegram, il y a peu de temps, la semaine dernière, a donné des excuses au peuple palestinien pour ce qu'il était en train de vivre. Et finalement, ça, c'est quelque chose qui a été très peu publicisé. Est-ce que on peut imaginer aussi que dans cette guerre, le Hamas utilise tous les canaux possibles, y compris ces espèces de fausses excuses pour avoir du soutien international?
Alors, j'ai réalisé justement un reportage sur ces excuses pour la télévision suisse, la RTS. Donc, on en a quand même parlé. Ça a été relayé aussi par Le Monde, par plusieurs médias en France. Faut bien comprendre que ces excuses ne sont pas simplement une stratégie du Hamas. Elles ont une part de sincérité. Pourquoi? Parce qu'il y a une véritable colère dans la bande de Gaza, ce qu'on a montré dans notre reportage. Il y a une colère de dizaines de milliers de Gazaouis qui s'expriment d'ailleurs ouvertement sur les réseaux sociaux, malgré les dangers que courent les gens qui s'opposent au Hamas dans la bande de Gaza. Mais il y a bien sûr chez une partie des Palestiniens une véritable colère contre le Hamas, contre ses destructions. Les Palestiniens sont conscients que le Hamas a déclenché ses hostilités par les massacres du 7 octobre et que la réplique israélienne est due à ces massacres du 7 octobre. Elle n'est pas venue de nulle part. Maintenant, et c'est très important de signaler, même si le Hamas s'excuse, même si le Hamas sait qu'il a affaire à une certaine colère d'une partie de la population contre lui, il faut comprendre que le Hamas reste extrêmement populaire dans la bande de Gaza. C'est ce que montrent toutes les études d'opinion, avec toutes les précautions bien sûr qu'il faut prendre. Mais enfin,
Oui.
j'ai pu le constater en tout cas en Cisjordanie, le Hamas reste extrêmement populaire malgré ces massacres du 7 octobre qui ont été cautionnés assez largement par l'ensemble de l'opinion palestinienne et musulmane d'une manière générale dans le monde, mais également malgré ces destructions massives et ces dizaines de milliers de morts dans la bande de Gaza.
Et justement, Stéphane, comment expliquer cette popularité qui continue quand on sait que les chefs du Hamas vivent dans des hôtels 5 étoiles à Doha, alors que la population palestinienne est dans la situation qu'on connaît?
Non, du point de vue, si vous voulez, des Palestiniens, le Hamas a réalisé une opération militaire stupéfiante, a eu énormément de courage, énormément d'ingéniosité, et a réussi à, quelque part, rabaisser l'ennemi héréditaire israélien. Il faut savoir que les Palestiniens estiment qu'ils sont humiliés par toutes ces défaites successives depuis 1948, je dirais même depuis la Grande Révolte de 1936. Tous leurs soulèvements, toutes les guerres qu'ils ont pu mener par Israël se sont soldées par des défaites. Et donc, quand il y a un acte comme ça, je dirais victorieux d'une certaine manière, puisque l'opération du 7 octobre a réussi, elle a abouti au massacre de plus d'un millier d'Israéliens, c'est considéré comme une victoire, cela nourrit une forme de fierté nationale, une forme d'orgueil, et c'est ce qui explique la popularité du Hamas malgré ces massacres. Le Hamas est perçu comme le dernier mouvement qui ose encore se battre contre Israël, puisque le Fatah, l'autorité palestinienne, ont d'une certaine manière choisi la voie de la collaboration avec Israël. Le Hamas reste aux yeux, encore une fois, des Palestiniens, le dernier mouvement de résistance, et à ce titre, il est extrêmement populaire.
Merci beaucoup, Stéphane Amar, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste du Moyen-Orient. Bonne journée à vous et à bientôt.
Merci, Lisa, à bientôt.